Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Là où la forme de la pensée, d'une seule pensée, dépend de la nature même de l'idée, en même temps que la pensée étend, brise, recrée, façonne la forme et le style, alors surgit aussitôt comme la puissance du mythe, celui qu'avec Beethoven ont exploré Jolivet, Messiaen, Xenakis, Boulez, Henry. Cinquième et dernière séquence de Beethoven année 200, série de Brigitte et Jean Massin, pour le 200e anniversaire de la naissance du grand Allemand, comme disait Victor Hugo. Et dont voici la 7e émission, invité Jean Baraquet, dont on admirera la finesse d'analyse, non seulement dans son œuvre développée et inachevée, mais ici à voix nue, 2 ans avant sa mort.
Eh bien, c'est avec Jean Baraquet que nous allons continuer aujourd'hui nos entretiens sur Beethoven avec des musiciens d'aujourd'hui. Jean Baraquet, vous êtes sans doute le musicien de votre génération à propos duquel on a prononcé le plus souvent le nom de Beethoven. Et en tout cas, vous êtes certainement un de ceux qui l'aimait le mieux et qui en parlait le plus volontiers. Alors, il me semble que la première question à vous poser, ce serait de vous demander comment vous vous expliquez que Beethoven demeure parmi nous, ce que finalement il a toujours été un peu, un signe de contradiction. Et comment il se trouve que, alors que le grand public ne se détourne jamais de lui, on assiste à une sorte de rejet périodique de Beethoven par certains professionnels.
Oui, là, vous venez d'aborder plusieurs problèmes, les uns d'ordre personnel, les autres d'ordre musicologique me concernant, et d'autres plus généraux concernant Beethoven et l'histoire de Beethoven dans l'histoire de la musique. Je répondrai à la dernière question déjà. Ce rejet périodique des professionnels envers Beethoven est une tendance, à part Wagner, n'est-ce pas, est un signe très particulier et très significatif, à mon avis, d'une sorte d'impuissance qu'ont ressenti certains musiciens devant, effectivement, la grandeur beethovenienne, devant le génie beethovenien. Et il était plus facile, effectivement, de le rejeter, ou d'en rire, ou d'en sourire. Le public a continué, et c'est ainsi que Beethoven a toujours exercé cette fascination que nous connaissons si bien. Maintenant, les professionnels, il faut bien dire par exemple que ça appartient à une certaine musique française. À commencer d'ailleurs, le Debussyste que je suis, regret de le dire, mais enfin Debussy était le premier à vouloir démolir le mythe beethovenien, avec son histoire de la pastorale, etc.
Mais justement, on a l'impression qu'avec Debussy, il s'agissait presque de démolir un mythe. Mais je crois qu'il a quand même reconnu en profondeur, sans toutefois être vraiment beethovenien par tempérament, une certaine grandeur de Beethoven. Par exemple, il n'a jamais dit mal de la 9e symphonie.
Mais naturellement, moi, à mon avis...
C'était plutôt une réaction de défense, disons.
Une réaction de défense, à mon avis. Aucun des grands musiciens après Beethoven n'ont rejeté en question le génie beethovenien. Aucun. Ou s'ils l'ont fait, sauf des amateurs, je dirais les noms, sauf dans des réactions de... psychanalytique, de rejet d'impuissance. Et quand je vous parlais de l'histoire de Beethoven, cela commença après sa mort, puisque Wagner est le premier qui a compris que Beethoven avait mené la musique à une impossibilité, il employait le terme.
C'est Wagner qui a employé cette expression, Beethoven a rendu la musique impossible.
Il a même employé le mot « erreur ». L'erreur, mais tout le monde ne pouvait pas continuer l'erreur du maître, la musique impossible à cause de l'extraordinaire l'impossibilité individuelle qu'un tel génie avait créée.
C'est ça,
au fond. Et seul un autre héros de la grandeur de Beethoven était capable de se créer son langage à sa propre image, dans son propre miroir. Alors là, que devenait la tradition, que devenait le métier ?
C'est ça.
Il fallait, d'après lui, une sorte de... c'est là la grandeur du romantisme, des sortes de machinerie, de machination. Il a employé le mot de machinerie à cause de Berlioz. Et lui a pensé à régler son problème dans Opéra et Drame, pensant revenir au grand problème de l'union de tous les arts.
Déjà presque le spectacle total.
Le spectacle du spectacle total, oui, enfin inspiré, très inspiré par la Grèce. Mais c'était effectivement première mise en garde historique faite par un très grand musicien du phénomène Beethoven qui allait créer vraiment des ennuis après lui.
C'est-à-dire qu'au fond, à partir, comme l'a vu Wagner, à partir de Beethoven, la musique n'est plus une affaire de métier et de tradition, mais c'est une question d'expression d'un jeu personnel. Donc
si
il faut trouver son propre langage.
Au technicien que je suis, qu'il faut dire ça, il est certain que la musique reste une technique, mais ceux qui ont voulu poursuivre la technique beethovenienne ont toujours été un peu en marge.
Un jeune musicien comme Franz Schubert, quand il était au Convict, s'écriait déjà « Comment peut-on écrire encore quelque chose après Beethoven ?» Et ça n'était encore qu'un jeune garçon, et Beethoven était encore bien vivant. Est-ce que le mythe beethovenien n'a pas commencé à se créer dès le vivant même de Beethoven ? Quoi réside-t-il au fond ? Qu'est-ce que le mythe beethovenien pour vous ?
Il est certain que le mythe beethovenien a commencé à exister du vivant même de Beethoven, ne serait-ce que par son attitude humaine qui était assez remarquable et remarquée, parce qu'il a voulu être le héros, il a voulu être le chantre héroïque de son époque et le héros solitaire. Mais je voudrais répondre à une chose... où vous m'avez parlé de le rejet des musiciens, enfin de l'ombre qui gênait les musiciens. Ça, c'est des droits viennois, ce n'est pas vrai. Je dis qu'ils n'ont pas pu répondre à leur propre dialectique.
Oui.
Ça, maintenant, que le mythe ait existé, que Schubert en ait pris conscience, il y a deux choses. En ce qui concerne Schubert, et comment ne pas parler de Schubert dans une émission sur Beethoven, bien entendu. D'une part, Schubert avait 31 ans quand il est mort. D'autre part, Schubert, à côté du grand technicien qui était Beethoven, avait certaines limites, puisque lui-même pensait à la fin de sa vie... prendre des leçons de contrepoint, comme on le sait. Mais seulement que... il n'est jamais osé aborder directement Beethoven, simplement en allant le voir se promener. Tout ça fait partie d'une symbolique des très curieuses. Alors qu'ils habitaient à quelques centaines de mètres, il était très facile de se rencontrer. Et je crois effectivement que Beethoven a voulu créer son propre mythe. Et c'est ça qui me paraît le plus étonnant. Il l'a voulu et il l'a fait. Et il l'a imposé d'une façon telle qu'on le rejette. Certains le rejettent avec une énergie toute pathologique. Je me souviens de quelqu'un qui m'a fait une confidence dernièrement, qui m'a dit qu'il était israélite et que c'est un homme fort cultivé et qu'il ne pouvait pas supporter Beethoven parce que rien que l'idée du thème du scherzo de la 9e, le pam pam, c'était la botte hitlérienne. Alors,
oui, disons que là, c'est l'effet presque d'un traumatisme.
C'est l'effet d'un traumatisme. Et je pense que Beethoven a traumatisé un peu tout le monde. Mais qu'il ait voulu, parce que c'est un homme têtu, qu'il ait voulu être le musicien à part, et il est effectivement un musicien à part, et sans héritage.
Vous parliez tout à l'heure du héros solitaire. Il me semble que là, nous sommes au cœur d'un des problèmes très particuliers que pose Beethoven. C'est que d'une part, Beethoven a écrit une musique géniale, et d'autre part, Beethoven a eu une conception. géniale de la musique. Et la chose étonnante, c'est que l'un est inséparable de l'autre. Je pense que c'est une cause de gêne, non seulement chez ceux qui ne peuvent pas écrire la même musique, mais chez ceux qui ne veulent pas avoir la même conception de la musique. Cette conception à la fois très héroïque et très tragique et très solitaire de l'effort créateur.
Je suis entièrement de votre avis, car cela implique une chose qui est rejetée de plus en plus de nos jours, la liaison intime de la création et de l'homme. N'est-ce pas ? Et Beethoven, dans son héroïsme, a senti très bien qu'il ne pouvait aller que vers la solitude et non plus vers la collectivité. Ce qui est une conception qui ferait hurler, je crois, pas mal de mes collègues. Ce tragique, il l'a cherché. Cette solitude, il l'a trouvée. Il l'a même
créée,
presque, puisque je crois même que on a parlé dernièrement d'une psychosomatique de sa surdité. Et moi, j'ai toujours pensé que cette surdité, à la fin du compte, avait été inventée pour mieux se murer. Enfin, il y a une chose très troublante dans Florestan, le Fidelio, c'est ce cachot de Florestan et l'idée de l'homme enfermé et de l'homme libéré aussi, mais de l'homme dans le cachot.
Qui est une assimilation entre Florestan et Beethoven, ça me paraît évident.
C'est certain.
Je n'irai peut-être pas jusqu'à parler d'invention, mais qu'il y ait eu une certaine provocation psychique. Inconsciente à l'infirmité, pour ma part, c'est une idée qui ne me paraîtrait pas du tout impossible.
Ça, je ne sais pas quelle est la thèse médicale. Là,
il y en aura sans doute autant que de médecins.
Autant de médecins et de psychanalystes. Mais enfin, il est certain que Beethoven a traversé toute une série de creux de vagues, n'est-ce pas, et où il se contrôlait lui-même, et qui était très, très pathologique, ne serait-ce que pour citer la grande crise de 1817, où...
Pratiquement, il n'écrit plus rien.
Il n'écrit plus
un
rien.
Seul livre, je crois, pour une année, enfin, pratiquement.
Et il est très troublé. Il avait dit qu'il allait se consacrer à son neveu, devenant lui le père, et ni plus ni moins était en train de germer la 9e symphonie, la Missa Solemnis, les derniers quatuors, les dernières sonates, et les Diabelli, enfin, les grandes... Toutes ces œuvres, les œuvres qui exigeaient une coupure, je crois. Avec même son monde précédent, le monde beethovenien, et qu'il avait lui créé ce monde qui était le monde de la symphonie héroïque, de la 5e symphonie, où le monde beethovenien, s'il était mort, par exemple, je ne sais pas, quelques années avant...
Ça aurait été un tout autre Beethoven.
Ça aurait été il nous aurait laissé la 5e, la 7e, la 8e, mais pour créer ce climat psychologique et terrifiant de ces dernières œuvres qui touchent justement à l'inachèvement, car ces dernières œuvres ne sont qu'un bloc, et ça j'ai toujours pensé, ne sont qu'un grand massif, il fallait une rupture psychologique qui les menait à l'isolement.
En somme, on a toujours tort de parler des dernières sonates, des derniers quatuors, parce que ça n'était pas les dernières sonates, et ça n'était vraisemblablement pas les derniers quatuors.
Non,
c'est tout cas, la 9e n'était pas la dernière symphonie, puisqu'il avait la 10e en projet.
Il allait, je crois, vers une conception très cosmique de la musique, sur le plan même de l'écriture.
Et voilà ce qui m'intéresse, justement.
Parce qu'il y a une contradiction, au fond, dans cette solitude voulue
voilà,
et recherchée.
Ce qui m'intéresse précisément, c'est ce paradoxe. Que ce musicien, qui dans un sens est le plus solitaire de tous, est en même temps celui qui se soit proposé et qui ait obtenu l'immédiateté la plus simple de la communication. C'est le célèbre mot « venu du cœur, qu'elle aille au cœur ».
Ça, c'est Beethoven qui l'a dit.
Ça, c'est Beethoven qui a mis, c'est l'exergue de la fameuse exergue de la Missa Solemnis.
Mais c'est tout à fait étonnant. Que ce soit le mot d'un solitaire qui croit si profondément à la communication des cœurs, c'est-à-dire qui atteigne le cosmique, non pas par des efforts de brassée horizontale, si je peux dire, mais par une descente verticale toujours plus solitaire au fond de lui-même. Et peut-être que c'est une des raisons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles Beethoven est si gênant à avaler, c'est pour cette espèce de démonstration qu'il nous inflige à tous, qu'on ne peut atteindre l'universel qu'en descendant solitairement au fond de soi-même.
Oui, ça c'est le problème du cas de conscience. Mais je crois effectivement que cela fait aussi partie des contradictions beethoveniennes. Car cet homme, qui était l'homme de la Révolution, avait une conduite humaine très curieuse, puisque envers ses domestiques et envers l'aristocratie, mais enfin, il se débattait pour vivre. Cet homme qui vivait dans cette époque d'intense révolution, beaucoup moins d'ailleurs au moment de la 9e, mais en fait, la 9e et son hymne à la joie est un cri de grande collectivité qui vient de la révolution. Mais combien de mauvaises 9e symphonie, j'imagine, autour de la révolution et de Gossec et de je ne sais plus quel mauvais hymne de Cherubini que Beethoven admirait cependant, mais qu'il se soit nourri de symboles et de mythes. Par exemple, je prends le prétexte même d'avoir mis ce final sur ce texte de Schiller. Le texte de Schiller, je l'ai souvent dit, est même un texte qui n'est pas tellement exaltant.
D'ailleurs, vous savez que Schiller lui-même le considérait à la fin de sa vie comme une de ses œuvres les plus faibles.
Oui, ça je ne savais pas.
C'est curieux.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que Beethoven a pris, comme dans c'est l'histoire du livret de Fidelio, qui a tellement été critiqué, a pris un prétexte pour exprimer son sens dans Fidelio de la solitude, de la pré-solitude, et dans la 9e, justement, de la communication complète, après avoir fait ce transfert comme... dont on a parlé Nietzsche, enfin, dans les différentes descentes de Zarathoustra.
Ce qu'il y a de très passionnant dans le cas de Beethoven, c'est qu'il semble que vraiment l'homme coïncide à l'œuvre, c'est-à-dire à plusieurs reprises, vous avez dit, c'était sur le plan de la vie que se créait tel impératif de solitude, et finalement c'est rendu sur le plan de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a peut-être peu d'exemples dans l'histoire de la musique où il y a une telle coïncidence, un tel tissu serré entre l'existence d'un individu et sa propre création.
Avec des transpositions constantes.
Avec des transpositions constantes, c'est aussi tout de même des incohérences entre la vie et la vie de l'homme de tous les jours, qui était pratiquement imbuvable, qui avait un caractère impossible, qui avait une conduite presque anarchique dans sa vie quotidienne, et la cohérence justement de son œuvre.
Conduite anarchique, d'accord. Pratiquement imbuvable, ça n'est pas pour défendre à tout prix mon héros, mais certains témoignages montrent qu'au moins, à certains moments, Beethoven était... facile à vivre, en revanche.
Oui, mais cela fait partie du mythe aussi. Je pense que ces fameux scolaires ont plus impressionné que ses besoins de tendresse, qui étaient certainement immenses. Un homme comme Beethoven avait tellement besoin d'amour et de tendresse qu'il exigeait l'amour et la tendresse de telle façon...
Et que son exigence était
lassante pour autrui.
Et qu'elle n'était peut-être pas acceptable à cette époque-là, dans les données sociales de cette époque-là, des personnes desquelles il a revendiqué.
Oui, surtout que c'était un homme exclusif et dont pouvait s'éloigner pour des raisons personnelles parce que, justement, voilà encore une chose mythique, parce qu'il fallait vivre. De même que l'histoire de la musique après devait vivre et inventer le romantisme, inventer des vocabulaires et parfois des faux fuyants. Mais... je pense que ces éclats ont fait beaucoup plus que ces élans envers autrui, que peut-être autrui, ses proches n'ont pas toujours compris exactement, car comme tous ces grands tragiques et coléreux, c'était un homme seulement très prude. Et il devait avoir des démonstrations d'amour très, très pudiques.
Oui, je crois que vous avez prononcé le mot. Il y a une pudeur beethovenienne qui est tout à fait étonnante chez ce démonstratif, chez cet expressif et qui est très importante à souligner. Ce qui me frappe, c'est que dans le mythe beethovenien, depuis la mort de Beethoven, les éléments biographiques restent infiniment plus présents que pour n'importe quel autre musicien. On pourrait certainement trouver un certain nombre d'autres musiciens qui étaient fort difficiles à vivre, qui étaient imbuvables, qui avaient des éléments pathologiques dans leur psychologie, etc. On pourrait en dresser une liste énorme. Pour aucun d'entre eux, on en fait état comme on en fait état pour Beethoven. Il me semble que c'est parce qu'il y a une espèce de parabole exemplaire entre la manière dont Beethoven s'est posé comme homme et la manière dont il s'est posé comme créateur. Entre le rapport de la vie et de la musique tel qu'il a voulu le vivre. Qu'en pensez-vous ?
Bien, je crois que, justement, il a voulu rendre sa vie impossible, comme il a voulu rendre cette musique impossible, et même presque dans sa folie, il a voulu qu'ensuite la musique se taise, après sa mort. Tout en pensant le contraire, peut-être, en voulant une filiation, mais beaucoup plus profonde que celle qu'on a vue dans le 19e siècle. Mais effectivement, le nombre de créateurs qui ont eu un caractère idyllique et euphorique, je crois que cela peut se compter sur les mains de...
Les doigts d'une main.
Mais je ne pense pas, par exemple, qu'un homme comme Michel-Ange ait eu un caractère merveilleux.
Ni Goya.
Ni Goya, ni qui que ce soit.
Bon, au fond, il faut bien admettre que le génie naît peut-être d'un certain déséquilibre. C'est peut-être la solution.
C'est-à-dire, je connais dans la vie courante des gens qui sont beaucoup plus insupportables que certains créateurs.
Absolument.
Seulement, ça prend des proportions chez le créateur, surtout quand ils appellent Beethoven, tel que ça en devient un roman, n'est-ce pas, et un prétexte. Mais je crois qu'effectivement, il y avait cette... ambivalence, cette ambiguïté de cette misanthropie beethovenienne et de cet amour de l'homme. Je vois donc un parallèle entre cette misanthropie et cet extrême amour des hommes avec une chose beaucoup plus profonde qui se reflète dans son comportement proprement artistique. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a peut-être pas eu un musicien qui ait aimé la musique autant que Beethoven, mais qui en a été jaloux à un point qu'il aurait voulu l'arrêter presque après lui et l'engloutir dans sa tombe. Et c'est ainsi qu'il l'a mis, et je crois que les grands musiciens futurs l'ont compris, qu'il a mis en question permanente et d'une façon presque suicidaire l'histoire de la musique. Déjà, le ton même du début, ne serait-ce que de la première symphonie, est une rupture de tradition musicale, puisque vous savez que ça commence par la sous-dominante, c'est-à-dire un accord dissonant qui se résout sur un accord consonant, et on lui fait la remarque, mes maîtres, ce n'est pas dans les règles. Et il a dit, eh bien, moi, si je le permets. Dès la première symphonie, qui n'est pas tout de même très audacieuse, il y a cette distance prise envers le monde, l'histoire et soi. Et ensuite, un règlement de soi par rapport à soi. Et de soi par rapport à ce qui a été créé. Et c'est toute l'histoire des dernières œuvres et surtout de la Missa Solemnis.
Vous voulez dire que puisque de toute manière une certaine rupture était consommée ou se voulait effective par rapport à la société, il fallait bien que lui-même, dans sa propre œuvre, accomplisse un nouveau pas dans la distanciation presque par rapport à la musique de son temps.
Oui, et inversement, il a créé un état impossible parce que sa musique lui était impossible. C'est le premier créateur, sans doute, qui a senti cette nécessité de mettre dans sa vie pratique, presque quotidienne, et, disons même un drame quotidien. Et les fameuses histoires beethoveniennes qui maintenant passionné biographe, c'est tout de même typique, sous ces histoires qui n'arrivaient qu'à lui, viennent, enfin...
Les multiples procès, les déménagements innombrables,
les déménagements, etc. Les 35 maisons, il aurait pu... Enfin, puis cette volonté toujours de partir, par exemple, d'aller à Londres, là où il aurait été bien reçu, je crois qu'il serait resté 3 jours à Londres, enfin, Beethoven n'a jamais voyagé, pratiquement, il est resté à Vienne...
Volonté de partir sans jamais partir.
Volonté de partir sans jamais partir, ça veut partir aussi des contradictions beethoveniennes.
Et je pense alors, pour revenir sur le plan de la musique, à toutes ces notations de Beethoven qui laissent supposer qu'il a eu tout à fait conscience du fait que sa musique n'était pas en accord avec son temps. Le fameux « ils comprendront plus tard » à propos des derniers quatuors, ou encore « c'est une musique qu'on pourra jouer dans 50 ans » à propos de la sonate opus 106. Il semble que là, il ait eu une nette conscience de l'impossibilité de sa musique à son époque.
D'une certaine musique de lui, c'est-à-dire des dernières œuvres, puisque quand il a dit, lui-même a été le premier grand critique de sa musique, puisqu'il a dit au moment du dernier quatuor, et quand on lui parlait du septuor, mais à cette époque-là, c'était bien, mais maintenant, il a remis ça à sa place, n'est-ce pas? C'était dans l'ombre des œuvres presque traditionnelles.
Oui, mais on n'attend même pas les dernières œuvres. Car dès 1806, au moment des quatuors Razumovsky, il dit à un musicien qui s'étonne de leur difficulté à être joué et à être compris, il dit « ce n'est pas pour vous, c'est pour les siècles à venir ».
Dès 1806.
Donc dès 1806, il y a cette distanciation par rapport à son temps.
Ça, c'est certain. Ça s'est accentué ensuite et sans faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le caractère beethovenien, sans faire de drame. Car oui. Il savait très bien qu'en écrivant le final de l'opus 106, c'était à l'époque injouable.
Une profonde sérénité.
Et que les derniers quatuors étaient injouables à l'époque.
Vous parliez tout à l'heure d'un règlement de soi par rapport à soi. Est-ce que ça n'implique pas, est-ce que ça n'exige pas aussi de la part de Beethoven un règlement de la technique par rapport à l'expression ou de l'expression par rapport à la technique?
Là est une de mes idées les plus chères, c'est qu'il n'y a aucun divorce en fait entre l'expression et la technique. Tout grand compositeur était toujours un très grand technicien. Je ne dis pas qu'un tout grand technicien a toujours été un grand compositeur, mais je dis que avant tout, tout grand compositeur a été un grand technicien et a toujours été obsédé par ce phénomène de la technique. Et Beethoven, plus que tout autre d'ailleurs. Les découvertes techniques de Beethoven, ce n'est pas le lieu de en parler ici. Quelles sont en gros les grandes découvertes beethoveniennes, à part effectivement le problème morphologique qu'il a posé avec la musique tonale, la musique bithématique? Une chose très curieuse que je citerai, par exemple, dans la 5e symphonie, avec ce fameux développement central. Je n'en donnerai pas des exemples parce que ça me paraît trop long, mais il y a une élimination du thème. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'en fait, la 5e symphonie n'a pas pratiquement de thème.
Oui.
Ce qui est en soi une chose très curieuse.
Si on discute du papa-papa comme thème, elle n'a pas de thème.
Mais le sol 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 mi, ensuite, est éliminé, perd de ses valeurs. De 4 notes, on passe à 3, à 2, à 1. Et là où on a vu souvent des grossissements orchestraux dans la 5e symphonie, il était simplement question d'une amplification dans la variation rythmique. Si bien que l'on trouve parfois, et ce qui est très étrange à l'époque beethovenienne, au sein du développement harmonique, une concomitance de ce développement harmonique avec l'écriture orchestrale. On pourrait citer par exemple le passage en blanche pointée du développement central où il met en jeu tous les registres extrêmes de l'orchestre pour bien faire entendre que c'est la cellule qui s'élimine progressivement, pour ne devenir plus qu'un tapement d'ailleurs, et de la cellule avant la réexposition ne deviendra plus qu'un martèlement.
Mmh.
Il y a naturellement l'histoire de la Grande Fugue, l'écriture des dernières œuvres, ces fameuses diabellies, puisque j'appartiens à une génération qui a tout de même un peu contribué à découvrir que les diabellies n'étaient pas une plaisanterie, et que les dernières œuvres étaient effectivement des œuvres plus importantes qu'on ne le pensait jusque-là. Sur le plan morphologique, les diabellies posent un problème très grave, moi, qui me préoccupe particulièrement, qui est celui de l'inachèvement. Et ça, je vous ai parlé tout à l'heure de l'inachèvement sans cesse par rapport à l'ensemble des grandes œuvres beethoveniennes de la fin. Mais les diabellies, il pourrait y avoir au fond 100, 150, 200 variations et ça sera toujours inachevé. Et c'est là le problème même du geste créateur qui a véritablement inquiété les successeurs.
C'est que la notion même d'œuvre est remise en question, dans sa limite.
La question d'œuvre et de forme est remise en question dans chaque œuvre à partir de Beethoven. C'est ce qu'a compris peut-être le premier, je crois, Debussy, non, moins dans ses grandes œuvres, et ensuite la musique peut-être post-sérielle.
Reprenons, si vous le voulez bien, cette question de forme, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que Beethoven a remis en question la forme pour chacune de ses œuvres. Est-ce que ça ne vous paraît pas, aujourd'hui, où l'on parle tant de forme ouverte, je veux dire à vos propres yeux de compositeur d'aujourd'hui, un des plus grands apports de Beethoven dans l'histoire de la musique?
Certainement, si l'on comprend le mot forme ouverte d'une certaine façon. Je préférerais dire forme mouvante. Le mot forme ouverte a été employé ces dernières années, surtout par les musiciens qui ont fait entrer dans la musique l'aléa, que je réprouve complètement, et que Beethoven aurait sans doute réprouvé complètement également, car il voulait que le compositeur lui-même assume complètement l'œuvre. C'est en ce sens-là où le mot « forme mouvante », je crois qu'il a été employé par Genet, dont on parlera tout à l'heure, par rapport au théâtre, me paraît assez curieux. Je dis que Beethoven tient à assumer, dans une sorte d'inachèvement de l'œuvre, l'écriture de l'œuvre. Mais sans, par exemple, donner à l'interprète une valeur créatrice, comme l'a fait la musique aléatoire. Maintenant, j'ai souvent employé le mot inachèvement, il faudra peut-être que je m'explique là-dessus. Je fais bien la différence entre l'esquisse et l'inachèvement. Je pense que toute grande œuvre est une œuvre tournée vers la mort, tout en assumant la création de la vie. Cela me paraît un cycle tout à fait normal et sur le plan mythique, tout à fait valable.
Est-ce que la création même n'est pas un défi à la mort, inévitable ?
Si, c'est une façon de reculer la mort et tout en la sacralisant. C'est dans ce sens-là que je crois que le premier musicien qui a vraiment sacralisé l'œuvre, c'est Beethoven justement, et dans cette œuvre qui a tellement été contestée avec la Missa Solemnis.
Jean Baraquet, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'inachèvement. C'est un thème qui vous est cher et c'est un thème qui devient presque pour vous un mythe au niveau de votre création, puisque depuis un certain temps déjà, vous avez placé toutes vos créations musicales sous le signe de la mort de Virgile, lequel titre sous-entend, pour qui connaît l'œuvre de Hermann Broch qui vous a inspiré au départ, un inachèvement d'une œuvre, à savoir l'œuvre de Virgile.
Oui, je pense que j'ai été traumatisé très jeune par ce phénomène de l'inachèvement chez Beethoven, sans m'en rendre compte. Et c'est la rencontre avec la mort de Virgile d'Hermann Broch, j'avais 28 ans quand j'ai découvert l'œuvre, qui m'a fait penser, non pas à l'époque, à une musique inachevée, puisqu'au contraire, je pensais lui donner même un temps rigoureux dans la chronologie, même des différents morceaux. Mais c'est en poursuivant que je me suis aperçu que j'écrivais une œuvre que la mort achèverait d'elle-même. Mais je peux vivre 90 ans, 100 ans ou 200 ans, ou une minute ou 10, je ne sais pas, mais la mort de Fléchier ne sera jamais achevée.
Mais pourquoi un titre général, au fond ? Parce que vous pensez, vous aussi, qu'il n'y a de vrai que votre œuvre complet.
Un titre général, parce que je n'écrirai que la mort de Virgile et ses principes corrélatifs. Parce que la technique même de la mort de Virgile, avec son principe de série proliférante, épuise des millions de possibilités qui, en soi, sur le plan technique, imposent l'inachèvement. Car je suis pris, moi aussi, à mon propre jeu dans cette histoire. Et je ne peux pas l'achever, car je n'ai pas matériellement le temps humain d'achever cette œuvre. Et c'est en ce sens-là où, poétiquement, le rudiment de la technique est transgressé au niveau d'une sorte de poétique.
Il y a eu dans votre œuvre des œuvres antérieures à la mort de Virgile, et notamment une sonate pour piano qui est très importante, importante pour vous, je pense, importante pour nous aussi. Et à propos de cette sonate pour piano, on a beaucoup parlé de références beethoveniennes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On a notamment parlé de la 106.
Ça, vous savez, chacun est libre de son jugement. Les critiques qui ont été faites au sujet de la sonate, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours laudatives, premièrement, j'en rends responsable les auteurs. Moi, mon avis personnel, je crois, importe peu. Il est certain que le jeune homme de 22 ans que j'étais à l'époque était manifestement hanté par les grandes formes beethoveniennes des dernières œuvres. Et il y avait sans doute une façon de rejeter ce que l'on appelait à l'époque la petite forme. Et d'écrire une œuvre, d'ailleurs, je n'ai toujours écrit que d'écrire une œuvre en une seule partie, en un seul mouvement. Ensuite, j'écrivais une autre œuvre qui s'appelle Séquence, qui était aussi en un seul mouvement. Et ensuite, La mort de Virgile, qui est en fait, qui ne sera qu'en une seule, immense mouvement, bien qu'elle durera plusieurs et plusieurs et plusieurs heures.
Il y a autre chose qui frappe aussi l'auditeur de vos œuvres. Je pense en particulier à la sonate. C'est un usage du silence, une valeur, j'allais dire, une éloquence du silence, très proche, me semble-t-il, de l'usage de la valeur, de l'éloquence du silence beethovenien.
Je crois que tout musicien a été obsédé par le silence. C'est un phénomène curieux, mais c'est comme cela. Dans ma sonate, ce sont des raisons structurelles qui font que le silence imprègne progressivement l'œuvre. Car la lecture contrapuntique, si vous voulez, des voix, devient non plus verticale, mais horizontale, intégrant des musiques que j'appelle évidées et qui font que le silence imprègne l'œuvre. Chez Beethoven, la notion de silence, comme chez Schubert d'ailleurs,
Et dès les premières sonates pour piano de Schubert.
Dès les premières, est extrêmement présente, mais plus, je crois, sur un plan poétique que sur un plan directement de l'écriture.
Nous étions partis d'une question. Pourquoi est-ce que Beethoven suscite si souvent à la fois hantise, attirance, rejet, peur ? En somme, Jean Baraquet, en vous entendant vous expliquer et nous parler de Beethoven, il y a une chose dont nous prenons conscience toujours plus et dont nos auditeurs prennent sans doute conscience comme nous, c'est qu'à la fois vous êtes habité par l'amour de Beethoven et que vis-à-vis de lui, vous n'éprouvez aucun complexe.
Aucun complexe, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin,
vous n'en avez pas peur.
Je n'en ai
et
pas peur.
Et vous n'en avez pas peur au niveau de votre création.
je n'en ai plus peur, disons. Mais je voudrais prendre déjà bien des distances fort modestes et envers l'admiration devant celui que je considère comme mon maître et devant l'amour que j'ai et que j'ai toujours éprouvé pour lui et qui envahit de plus en plus ma vie de créateur et d'homme. Mais en fait, de quoi a-t-on peur? C'est du héros, c'est du mythe, de la solitude recherchée, de la grandeur en somme. Beethoven est tout cela. Il n'a pas cessé d'emprisonner nos vies créatrices, toujours solitaires. Et j'aimerais, si vous voulez, conclure cette émission sur une citation d'un de mes auteurs favoris, qui est Jean Genet, et qui me paraît très bien convenir, si vous voulez, à l'aura beethovenienne. C'est une citation extraite des Bonnes. Nous prenons forme. Ne riez pas, ah, surtout ne riez pas de ma grandiloquence.
Voici Beethoven lui-même sorti du cachot de Florestan avec l'auteur de La mort de Virgile, Jean Baraquet, invité de Brigitte et Jean Massin dans cette 7e émission de Beethoven année 200, cycle 5. une émission diffusée la première fois le 11 mars 1971, 2 ans à peine avant la mort du compositeur Jean Baraquet.